Et maintenant, c'est l'heure d'RLP Sport avec Thomas. Bonsoir dans cette et bienvenue dans cette nouvelle édition d'RLP Sport. Je remercie Émile qui a la technique ce soir, qui me soulage un petit peu. Donc ça marchera bien. Et événement, ce soir, on va parler d'une discipline qui est méconnue de beaucoup de sportifs en Périgord et en France, je pense. Et nous allons recevoir un invité de marque, malgré son âge. On va parler de tir à l'arc à cheval et on reçoit Raphaël Mallet. Bonsoir, Raphaël.
Bonsoir.
Qui est venu avec sa maman, parce que Raphaël, pour la petite histoire, il a 17 ans.
C'est ça.
Et ouais, ça rajeunit. Et alors, autre point à souligner, il nous arrive de Saint-Avis-Seigneur, c'est ça, à côté de Beaumonton en Périgord. Enfin, ça fait partie de la communauté de communes. Donc, plus d'une heure pour venir nous voir en studio. Encore une fois, merci, madame, et merci, Raphaël, d'être venu. Alors, Raphaël, tire à l'arc à cheval. Après, on va parler des résultats récents. Explique-nous ce que c'est.
Déjà, c'est la réunion de deux disciplines, donc l'équitation et le tir à l'arc à cheval. Et le but principal, on va dire, c'est on va avoir une ligue de run qui est matérialisée par un couloir de fil.
Ouais.
On va avoir une ou plusieurs cibles. Et le but, c'est d'être lancé au galop, d'aller mettre une ou plusieurs flèches dans chaque cible en étant le plus précis possible.
Donc, le plus précis et le plus rapide
ou... Ouais, c'est-à-dire qu'on va avoir les points de la cible qui vont être additionnés au point que vont nous rapporter le chronomètre, parce qu'on a un temps de référence en fonction des distances.
D'accord, ok. Alors, donc, le mélange de galop, d'équitation traditionnelle, ouais, on va dire, et le tir à l'arc, tu as commencé par quoi ?
Moi, j'ai commencé par l'équitation à 4 ans à peu près.
D'accord.
Et après, le tir à l'arc à cheval... Vu que c'est arrivé assez tard en France, j'ai commencé vers 8-10 ans.
D'accord, donc près. Ouais, parce que ça fait... Alors, le tir à l'arc à cheval dans la Fédération française d'équitation, c'est arrivé il y a à peu près 10 ans, en 2014.
Ouais, c'est
donc,
ça.
Donc, c'est tout récent. Et le tir à l'arc, alors pour le coup, tu en faisais du tir à l'arc déjà ?
Moi, j'ai découvert le tir à l'arc pour faire du tir à l'arc à cheval.
D'accord, pas de tir à l'arc traditionnel.
Non, pas du tout.
Sur les pieds ?
Non.
Ouais, tant qu'à
après,
faire,
on en fait à pied pour s'entraîner nous,
ouais,
pour travailler la technique. Mais c'est quand même le tir à l'arc en pratique, il est un peu différent du tir à l'arc classique.
D'accord.
Qu'on fera en club.
Ouais, en club de tir à l'arc par exemple.
Ouais, c'est ça.
C'est quoi la différence ?
Déjà. C'est-à-dire que nous, on s'entraîne à encocher hyper rapidement. Vu qu'à cheval, on galope, il faut pouvoir enchaîner les flèches.
Ouais.
Donc ça, c'est une première chose.
Alors pour ceux qui nous écoutent, on en a parlé tout à l'heure, Game of Thrones, Viking, tout ça, voilà, c'est exactement ça.
Et après cette rapidité-là, il faut travailler, on va dire, la distance, tout ça, parce qu'on n'a pas le temps de viser, de rester en place pendant 15 secondes pour pouvoir tirer.
Ouais.
Donc il faut arriver à viser, nous on dit de manière instinctive, mais il y a forcément une visée quelque part, du coup il faut arriver à trouver par rapport à son arc.
D'accord, le juste point,
ouais,
et donc on est au galop à cheval, on tient un arc entre les mains,
ouais,
on encoche et on décoche, c'est ça,
c'est
le
ça.
Plus vite possible,
c'est
en
ça.
Visant. Ok, rien que de le dire, j'ai perdu le souffle. Et là, aux surprises, championnat du monde au mois de septembre, ça oui. avait lieu à Oulan-Bator en Mongolie. Est-ce que tu peux nous donner ton résultat, s'il te plaît ?
Déjà, on était engagé. Moi, je faisais partie de l'équipe de France.
Ouais.
Et là, on a réussi à décrocher la médaille d'or.
En par équipe.
Et après, j'étais engagé en individuel en jeune cavalier, donc 17-21 ans. Et là, j'ai aussi réussi à décrocher la médaille d'or.
Ouais, double champion du monde,
ouais.
Voilà, à Oulan-Bator, qui est en Mongolie, qui est le... On va dire, la Mongolie, c'est comme le Japon pour les sports, les arts martiaux.
Ouais, c'est un peu le berceau de la discipline.
Voilà, c'est le berceau de la discipline, parce qu'on en parlait aussi. Là-bas, c'est culturel.
Ouais, c'est ça, c'est un art de guerre qui s'est transformé en sport pour nous, sans avoir cette culture du tir à l'arc à cheval avant.
Ouais.
Mais pour eux, il y a des statues avec des gens qui tirent à l'arc partout dans les villes. C'est vraiment quelque chose que tout le monde connaît.
Ouais.
de culture juste en connaissant l'histoire du pays.
D'accord. Donc, alors, on s'imagine maintenant un cavalier buste droit sur un cheval au galop avec un arc. Comment on dirige ? Comment on maîtrise ou on dirige son cheval ?
Déjà, c'est un travail en amont de s'entraîner à pouvoir lâcher les rênes, laisser le cheval galoper. Une fois qu'on devient à l'aise en ligne droite, là, on peut s'entraîner à partir dans des espaces libres où c'est les jambes qui vont diriger le cheval,
ouais.
Qui vont le buste, le souffle qui va permettre de gérer l'allure. Forcément, il y a des moments où on va reprendre les rênes. Donc, il y a une main qui tiendra l'arc, l'autre qui va diriger, mais ça, c'est très bref. Et après, tout le reste, en gros, c'est le bas du corps qui le gère. Donc, le bassin et les jambes.
D'accord, avec des pressions
C'est ça, des pressions, des rotations, ce genre de choses. Et du coup, le cheval qui est habitué, au fur et à mesure, il va comprendre et ça va devenir de plus en plus précis.
Donc, il faut une énorme complicité avec le cheval, je suppose. Par contre, en préparant l'émission, tu as concouru sur un cheval que tu ne connaissais pas, en fait.
Mais c'est ça. C'est un peu le principe. Enfin, le principe. C'est culturel dans notre discipline que quand on part faire des compétitions à l'étranger, surtout aussi loin que la Mongolie, l'organisateur met à disposition des chevaux pour tous les cavaliers. Et nous, on est arrivé 4 jours avant, et vu qu'on a pris des chevaux en dehors, on a pu s'entraîner pendant 4 jours avec. Mais en général, avant la compétition, on a un jour qui est dédié entièrement à essayer les chevaux, trouver un cheval qui correspond à chaque cavalier.
D'accord.
Pour pouvoir être à l'aise sur la compétition avec un cheval qui ne va pas nous faire peur, qui ne va pas aller trop vite et qui est adapté à notre niveau.
C'est un inconfort. Alors, au moins, tout le monde part sur la même base.
Il y en a qui ont leurs chevaux. En fait,
il y en a qui avaient leurs chevaux.
Les gens du pays,
ils avaient leurs chevaux.
Ils ont leurs chevaux.
Et ils n'ont pas gagné.
Non.
Ouais, ça c'est quand même.
Ça dépend des catégories, mais.
Ouais, d'accord. Mais donc ça rajoute un stress supplémentaire, ça, parce que
de trouver le bon cheval.
Ouais, ça c'est la préparation. Ça c'est quelque chose qu'on peut pas préparer.
Non.
À l'avance.
Alors, on peut s'entraîner à changer souvent de cheval pour apprendre à s'adapter.
Ouais.
Mais après, on peut pas se préparer au cheval qu'on aura parce qu'on n'en sait rien.
Ouais.
C'est une loterie, c'est-à-dire que le cheval on arrive, on nous dit tiens, va essayer celui-là. En fonction de notre taille, de notre gabarit. Mais après, le cheval, ça passe ou ça passe pas entre lui et nous.
Donc, je disais, c'est un stress supplémentaire. Qu'est-ce qui est, pour toi, dans cette discipline, quel est ton point fort ? C'est plus le tir, le fait de diriger le cheval, la concentration ?
Je pense que nous, les Français, notre point fort en général, c'est l'équitation. Par rapport aux autres qui prennent pas forcément des cours d'équitation, nous, on vient à la base du monde du cheval, de l'équitation classique. Donc, on a un niveau d'équitation qui est meilleur et on sait mieux gérer nos chevaux. On connaît notre équitation. On sait ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire. Et du coup, on a une aisance qui est plus grande. On a un meilleur équilibre. Donc ça nous permet d'être au-dessus pour l'instant.
D'accord, ça ouais. Et donc on en parlait aussi en off. Les Mongols ont pris conscience avec ce championnat du monde que ça pouvait être un sport de développement, enfin que ça pouvait être un sport déjà, et qu'ils pouvaient le développer. C'est ce que tu nous disais, qu'il y avait, il y avait énormément de médias et ça avait été un événement en fait.
Oui, ça a été un gros événement. On a eu... le ministre qui est venu faire un discours, beaucoup de télé tous les jours, 4 ou 5 caméras tout le temps braquées sur nous. Et c'est un événement, je pense, qui les a marqués parce qu'ils ont essayé de beaucoup communiquer dessus et c'est pas un pays dont on entend souvent parler.
Ouais, qui reçoit jamais d'événements sportifs.
Du coup, je pense que ça les a marqués. Ils ont vu qu'ils étaient bons dans la discipline. Et ça va les pousser à continuer et à essayer de se développer.
D'accord. Quels sont les pays, justement, où c'est développé ? On voit que la France a des résultats, grâce à Raphaël. pas que, mais grâce à Raphaël. Dans tout le camp Périgord, on est content. Quels sont les autres pays qui sont bien armés ?
Après, l'Europe est mieux développée. Et nous, on concourt plus souvent contre les pays européens. Donc la Hongrie, la Pologne, Suède, Angleterre, ça commence en Italie, en Espagne. Après, en Roumanie aussi, après, il y avait les Russes qui étaient là. Il y a pas mal de qualifiés là-bas.
Ils ont participé, les Russes,
oui,
à la compétition?
Ils avaient une équipe qui est venue.
C'est rare, parce qu'en ce moment, ils sont plutôt exclus de tout. Donc,
Là, du coup, eux sont venus, mais il y a des pays qui ont refusé de venir à cause de leur présence.
D'accord.
Mais oui, après, c'est un pays qui est assez fort. Le champion du monde des Masters de plus de 45 ans, il est russe.
Ah ouais, vous appelez les plus de 45 ans des masters.
Ouais, c'est le nom de la catégorie.
C'est un sport que je vais faire alors.
Et après, on concourt moins souvent contre les pays d'Asie.
Qu'on
connaît moins, mais.
C'est déplacé aussi.
Oui, mais du coup, il y a beaucoup de pays là-bas qui le pratiquent sans que nous, on ait beaucoup de nouvelles sur leurs résultats ou quoi.
Ouais.
Du coup, c'était une découverte. Pour nous, parce qu'on les avait jamais, on n'a jamais concouru
parce que
contre eux.
On le dit, allez voir des vidéos sur YouTube, sur tout ce que vous voulez, sur toutes les plateformes. C'est très spectaculaire, c'est très télégénique, contrairement à d'autres sports. la maman qui sourit, parce qu'on en a parlé avant. Comment on explique que cette discipline-là soit si peu médiatisée? Alors bien sûr, il n'y a pas beaucoup de participants, il n'y a pas beaucoup de licenciés ou de pratiquants.
Oui, c'est en plein développement.
Voilà.
Donc il y a pas mal de ça se développe fort en ce moment. Il y a eu beaucoup de communication qui a été faite suite à la Mongolie, et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Même on voit le Covid a mis un coup de frein au développement.
Bien sûr.
Et là, on voit que ça commence à revenir. Mais après, arriver à développer avec la FFE qui compte énormément de disciplines différentes en équitation, qui forcément ne soutient pas toutes autant.
Au même niveau.
Qui soutient fort les disciplines olympiques fort et
moins. Donc le saut d'obstacle,
le
concours complet, le dressage. Voilà.
C'est les disciplines principales. Donc les autres, elles ne sont pas forcément développées autant. Et du coup, c'est à nous d'arriver à développer la discipline, à la médiatiser, à ce que les gens la découvrent et voient que c'est quelque chose qui peut plaire à beaucoup de gens.
Ah oui,
parce
clairement.
Que, en fait, ça change de l'équitation classique. Il y a beaucoup de gens qui y vont pour ça, parce qu'on ne va pas juste faire du CSO, sauter des barres toute la journée.
On n'a rien contre eux.
Non, non, je pense que toutes les disciplines peuvent aller les unes avec les autres. Moi, j'adore faire du CSO parce que ma jument, elle saute super bien et ça lui apporte un autre travail complètement différent. Mais après, toutes les disciplines n'ont pas... C'est pas la même ambiance. Les gens, on les connaît beaucoup mieux parce qu'on est moins. Mais j'espère qu'en développant le sport, on gardera ce côté plus familial où tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve en concours.
Alors, en général, plus on est médiatisé, plus il y a de monde, moins l'esprit familial existe. on a des exemples. Justement, ce championnat du monde en Mongolie, tu as 17 ans. Comment tu as fait pour pouvoir y aller déjà? Parce que tu es en terminale. Il y a une petite échéance à la fin de l'année.
Oui.
Voilà, c'est pas... ça va aller. Il tire à l'arc sur les examinateurs. Donc, bon. Mais comment tu gères ça? Les études et puis ce voyage-là qui s'est passé
Déjà, là, tous ceux de l'équipe, d'ailleurs, on a tous raté la rentrée parce qu'on est rentré le 15 septembre. Parce que pour pouvoir rentrer des championnats du monde... Après, les cours, c'est pas quelque chose qui nous stresse tous.
La maman rigole.
Forcément, c'est dur de rattraper les cours et tout, mais après, ça va.
Ouais, parce que il y a pas de spécifique. C'est un entraînement que tu fais soit chez toi, soit en club.
Ouais.
Tu appartiens. Alors, je tiens à le mettre en avant. Le centre équestre du Pays Beaumontois,
c'est ça.
Qui a été aujourd'hui exceptionnel au niveau des partages sur l'émission. Je crois que tous les licenciés ont partagé. C'est extraordinaire. Merci encore. Ça fait plaisir. Je pense que c'est là où on se rend compte que quand on parle de sport peu médiatisé, on a beaucoup plus de retours que des gros. Donc voilà. Je passe juste un message comme ça. Donc, tu t'entraînes combien de fois par semaine spécifiquement à ta discipline? Parce que je suppose que tu dois faire du CSO aussi, un petit peu de saut.
Moi, je suis à l'internat, donc je peux m'entraîner que le week-end.
D'accord. En plus, tu es à l'internat.
Donc... Je monte à cheval au lycée avec une option une fois par semaine.
D'accord.
Mais après, chez moi, en général, j'ai un cours d'équitation pur le samedi matin au club. Après, j'essaye de m'entraîner soit le samedi après-midi, soit le dimanche après-midi pour tirer.
Ouais.
À cheval, j'essaye de le faire deux fois par semaine. Mais après, il faut gérer avec les devoirs et tout.
Ouais, c'est incroyable, ouais.
Depuis qu'on est rentré, j'ai essayé de le faire, de monter quatre fois par week-end. J'y arrivais à peu près.
Ouais.
Et après, il faut que j'arrive à trouver une demi-heure tous les samedis, dimanches pour tirer à pied, pour entraîner l'encochage.
Pour la technique, pour. Voilà. Pour, ouais, d'accord. C'est des semaines incroyables.
Ouais, c'est long un peu. Au bout d'un moment.
Ouais, ouais, c'est fatigant. Tu le sens quand même physiquement, c'est...
Ouais, les vacances, elles sont c'est bien quand elles arrivent.
Ouais, aussi, parce que il faut... Alors, c'est important, je vais pas te faire la leçon, mais il faut prendre du temps aussi pour couper, parce qu'on le voit là avec, par exemple, l'équipe de rugby, où les mecs replongent pas de suite parce que, parce qu'il faut évacuer, parce qu'il faut se régénérer. C'est important. Tout à l'heure, on parlait de la technique à cheval. Et la première chose que j'ai dite, c'était « Mais comment tu fais pour gérer ton cheval sans les rênes, sans tenir les rênes ?» Et quelle a été ta réponse? J'aimerais bien que tu me le dises.
En plus, c'est la question principale que tout le monde pose.
Ben oui, oui.
Mais en soi, les rênes, c'est quelque chose que, quand on regarde l'équitation comme ça, on se dit que c'est l'outil principal pour tenir à cheval, pour gérer le cheval. Mais en soi, les rênes, c'est quelque chose qui permet d'affiner la direction, le contrôle du cheval, pour être plus précis, faire des figures toujours plus compliquées, avoir le cheval le mieux dressé possible. Mais les rênes, ce n'est pas non plus un objet de survie quand on est à cheval.
Ouais, alors que moi, j'aurais tendance à m'accrocher dessus, ouais.
C'est quelque chose qui doit être souple, parce qu'on est dans la bouche du cheval, donc il y a les dents, il y a la langue, tout ça. Et il faut arriver à avoir un contact souple pour que le cheval il soit bien avec nous.
Soit en confiance, ouais.
Donc, même si on lâche les rênes, on va pas avoir. C'est pas dangereux du tout. Et c'est quelque chose que nous, on a appris maintenant. C'est une deuxième nature pour nous de lâcher les rênes. On peut lâcher les rênes en sautant, lâcher les rênes au milieu d'un pré.
On peut lâcher les rênes en sautant.
Oui, on peut sauter sans les rênes.
Ouais, ok, d'accord. je visualise, très bien.
Et après, nous, du coup, maintenant, lâcher les rênes, c'est quelque chose qu'on peut faire naturellement partout sans avoir peur. Pour beaucoup de gens qui nous regardent, c'est waouh. Ils lâchent les rênes au galop et
c'est incroyable.
Ils envoient leurs chevaux, ils mettent de la vitesse.
À combien ça? Est-ce que tu as une estimation à peu près de la vitesse à laquelle ça galope et à quelle vitesse tu tires à l'arc?
Après, en encochage, tout ça, à pied, le mieux qu'on arrive à faire, c'est autour de 2 secondes par flèche.
Deux secondes par flèche.
Pour encocher et lâcher.
Donc, c'est récupérer la flèche.
La prendre. En gros, on a les flèches dans notre main avec l'arc.
Ouais.
On les saisit. Le temps de la passer à travers, la mettre sur la corde, tendre et lâcher. Et
deux secondes.
C'est à peu près 2 secondes. Mais le plus rapide mondial, il approche les 1 seconde.
Il approche les 1 seconde pour,
par
prendre,
flèche, ouais.
Pour prendre une flèche, encocher, tendre et tirer.
Ouais.
Une seconde.
À peu près, ouais.
D'accord. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais, d'accord. Ouais, non, c'est incroyable. Est-ce que tu fais de la préparation alors physique en plus? Alors, à 17 ans, je sais que c'est l'âge où c'est un peu compliqué parce qu'il y a quand même de la croissance.
Ouais.
Mais est-ce que tu fais un peu de muscu? Est-ce que tu fais de l'entretien du haut du corps, peut-être?
Moi, en général, on essaie. Après, on n'a pas de programme spécifique parce que la discipline n'est pas assez développée pour avoir tous des préparateurs.
Il n'y a pas de suivi de la fédération, il n'y a pas de suivi, non, d'accord.
Non, après, notre coach nous pousse à en faire, même si ce n'est pas de la muscu, que ce soit du gainage,
de l'entretien,
des pompes, tout ce qui est poids du corps, parce que ça, le poids du corps, c'est quelque chose qu'on peut faire partout et à tout âge.
Merci. Je l'ai pris pour moi, ça. Non, mais on peut le faire partout et sans matériel.
Oui, c'est ça, donc voilà. C'est plus simple. Ouais. Après, moi, j'essaie d'aller à la salle deux fois par semaine, le mercredi et le jeudi. En général, on arrive à y aller.
T'arrives à dormir des fois ou...
Oui, ça va.
Ouais, ça, non, parce que là, les cours, la salle, ouais, c'est...
Après, j'ai de la chance parce qu'en cours, même si le début d'année était plus compliqué, j'ai la chance d'avoir des facilités en cours à comprendre les notions. J'ai pas besoin de réviser 3 heures par soir
pour
réussir mes évals.
Donc, champion du monde, hypercute. c'est impeccable, ça, c'est bien. Tu commences bien dans la vie. Je vois qu'on avait du retard. Donc, alors, maman est pas là. D'accord ? Tu fais comme si maman était pas là. C'est plus facile avec les filles ou pas ? Quand on est champion du monde.
Bah, en soi, quand on va au championnat de France, par exemple, les gens qui nous voient, ils trouvent ça incroyable. Surtout que nous, on est en équipe de France. Dans notre sport, tout le monde nous connaît. Donc, c'est vachement partagé quand on passe sur la piste ou quoi. Donc, il y en a beaucoup qui disent que ça nous aide dans ce domaine-là. Ça peut vachement nous pousser et tout.
Ouais, il est malin. Ouais, voilà. Et ouais, mais non, mais c'est bien. Non, mais il faut le dire. Bravo. Ok, donc on rappelle juste le championnat du monde. Donc, champion du monde, jeune cavalier, ouais. C'est ça ? En individuel et par équipe. Combien vous étiez dans l'équipe ?
Dans l'équipe, on était 4. Il y avait Youn Le Gall, Jules Boisson, Chloé Simons et moi.
Donc une fille ?
Ouais. Et après, en individuel, qui participait qu'en individuel, il y avait Gaëtan Blo et Rachel Bétoulière.
Rachel, donc une fille aussi ?
Ouais, il y avait deux filles qui sont les deux plus jeunes de l'équipe.
Quel âge ?
Elles ont 16 ans, les deux.
Ouais.
15 ans.
15 ans, d'accord. Et enfin, moi, je suis épaté.
Mais après, quand on est jeune, c'est sûr que c'est plus simple d'apprendre l'encochage. On est plus souple parce que sur le cheval, il faut arriver à tourner. Parce qu'on peut tirer de côté, vers devant, vers le sol, derrière ou de l'autre côté de l'encolure.
Les flèches ne sont pas toutes à la même hauteur, à la même distance, à la même... Et les parcours sont connus à l'avance, on repère ou c'est une surprise ?
En fait, c'est un combiné, donc on va avoir 3 épreuves différentes. Une première épreuve où on a une piste de 90 mètres. Le but, c'est de la faire en 18 secondes maximum. Et on a une cible positionnée au milieu à 2 mètres de haut et on doit tirer pendant toute la ligne sur cette même cible.
D'accord.
Donc au début, on est à 45 mètres.
Ouais.
Après, on rafale toute la ligne. Jusqu'à la fin, on est à 45 mètres en arrière. Et là, le but, c'est de...
Donc il faut se retourner sur le cheval.
Au début, on tire, on est positionné vers l'avant.
Ouais.
On suit la cible, on tourne. Et au final,
on est derrière.
On est derrière.
Et justement, il faut donc gérer ça et la direction du cheval.
Non, là, c'est un couloir tout droit avec des fils de chaque côté.
Ouais, donc là,
en gros, le seul truc que nous, on a à gérer, c'est la vitesse.
D'accord.
Pour mettre le cheval dans la bonne vitesse pour qu'on ait beaucoup de points dans la cible et beaucoup de points rapportés par le chronomètre.
D'accord. Et le chrono, il est affiché ? Est-ce que tu as un œil dessus ?
Non, on le sait à la fin de la piste. On donne le chrono à chaque cavalier qui passe.
D'accord.
Mais on ne sait pas, pendant qu'on est sur la ligne, par exemple à la moitié de la piste,
on est déjà dans le timing ou pas.
D'accord. On ne peut pas, on n'aurait même pas le temps, vu qu'on est concentré sur la cible, de regarder
avec le chronomètre. Tout ce que tu fais sur le cheval, tu pourrais quand même compter. Non, t'as dit que t'avais des facilités, donc compte, je ne sais pas. Non, d'accord. Et donc, il y a ça, et après, t'as d'autres épreuves.
Après, il y a une deuxième épreuve. Il y a 3 épreuves en tout. Ça, c'est la première, en général, toujours le premier jour. Deuxième épreuve, la première épreuve s'appelle la Tower. Deuxième épreuve s'appelle la Raid. Là, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, en général, sur 90 mètres, on est en 7 secondes à peu près.
90 mètres, 7 secondes.
Ouais. Et le but, c'est avec un carquois. Donc, c'est une pièce de cuir qu'on a à la hanche, dans le dos. On sort une flèche, une par une. Et le but, c'est d'être une cible, une flèche, le plus précis et le plus rapide possible.
D'accord.
Donc, ça,
sur 90 mètres, il y a combien de cibles ?
En général, ça va de 2 à 4.
D'accord. Ok. Ouais, il faut le temps de la sortir. Là.
Ouais.
Ouais. Donc, avec des incidents qu'il peut y avoir aussi.
Oui, des ratés d'encochage, des petits des problèmes.
Ça part vers le public, tout ça.
Non, c'est bon. La sécurité, c'est quelque chose auquel on fait beaucoup attention parce qu'il peut vite y avoir des accidents.
À quelle distance sont les cibles ?
Bah, du coup, là, c'est 8 mètres en général.
D'accord. Okay.
Et après, troisième épreuve, c'est l'épreuve phare un peu. C'est ce qu'on appelle la chasse. Donc là, c'est un peu comme un cross où on va partir sur 1500 mètres et on va avoir des cibles animalières en 3D ou en 2D. Et le but, c'est de partir avec un carquois rempli de 35 ou 40 flèches. Et on part sur le parcours. On peut avoir des sauts, des zones où on va devoir s'arrêter.
Mais c'est une surprise ou on l'a...
Non,
on l'a
connu à l'avance. On peut galoper avec le cheval sans tirer avant, d'accord, mais on ne peut pas tirer. On part sur le parcours,
ouais,
on peut avoir
on
déjà
reconnaît,
galopé.
En fait,
voilà, c'est ça. Mais on n'a jamais tiré.
D'accord.
Et okay, du coup, là, on a 20-30 cibles à peu près. Et le but, c'est de... On connaît les cibles, on sait comment elles sont, mais on n'a jamais tiré dessus.
Ouais.
Et là, c'est une épreuve où il faut allier vraiment très précis. Parce que les cibles, on peut avoir 3 points comme 7 points.
Ah, donc, suivant l'endroit
ouais,
où on a touché.
On la touche. Donc, ouais, la différence de points peut être vraiment énorme. On peut avoir des tirs à 50 mètres où chaque flèche va avoir 10 points.
50 mètres.
Ouais, c'est les plus loin qu'on peut avoir. Et chaque flèche qui va toucher la zone va valoir 10 points. Donc on peut créer des vraies différences sur cette épreuve.
Ouais, là ça se joue là quoi. C'est comme c'est un peu comme au décathlon la dernière journée,
ouais,
voilà où les épreuves on peut faire des écarts. D'accord.
C'est en général c'est la dernière épreuve parce que c'est celle qui peut complètement chambouler un classement.
Ouais, et puis c'est la plus spectaculaire.
Ouais.
Voilà.
Bah, c'est le cheval. Là on n'a pas de fil partout. Donc on peut avoir une zone.
Donc il faut diriger le cheval.
C'est
là.
Ça. Là on peut avoir une zone où on a une cible positionnée, un fil qui nous donne juste la distance pour tirer la cible,
ouais,
mais c'est à nous d'amener le cheval pour tirer sur la cible dans les meilleures conditions
ouais, au plus
pour
près,
nous.
Dans la meilleure position.
C'est
ça. D'accord. Je suppose que tout ça, ça a un coût de participer
ouais,
à ces... comment tu te débrouilles avec ta famille? Vous êtes à la recherche de partenaires de... Faut pas hésiter, hein, c'est le moment.
Ouais, ben, nous, on recherche des partenaires tout le temps. Au début, on a cherché... cette année, par exemple, on a cherché partout dans notre village, en agrandissant au fur et à mesure, en demandant à tous les petits commerçants, parce que chacun donne à la mesure de...
Ouais, il n'y a pas de petits dons. Hein.
C'est ça.
Ouais.
Donc, chacun nous a donné ce qu'il pouvait. Et au final, de toutes ces petites sommes qu'on a récupérées, on a réussi à financer l'année en mettant, par rapport à chaque concours qu'on fait, chaque déplacement à l'étranger... Du coup, ça nous permet de réaliser ces compétitions comme la Mongolie qui est très loin,
ouais,
d'arriver à y aller sans que ça coûte un bras
ouais, aux parents.
Ouais, c'est ça.
Ouais, parce que les parents sont là.
Oui.
Ouais.
Bah, là, on y allait à 3 du coup.
Ouais.
Mais chaque cavalier avait ses parents qui suivaient. Donc forcément, ça a un coût que tout le monde y aille. Et...
Donc ouais, si vous écoutez l'émission, passez par nous ou le club, le centre équestre là. Mais bon, passez par nous, on transmettra parce que il y a quand même des sportifs dans notre département à mettre en avant et Raphaël en est un. Je suppose que tu as reçu une petite lettre du département ou du comité olympique.
Oui.
Ouais. On va se voir le 11 décembre. C'est ça?
Oui, voilà.
Ouais, aux éclats du sport, c'est
ouais,
ça.
C'est ça.
Ouais. Non, mais c'est très bien. Ouais, parce que c'est alors là, c'est un grand moment, tu vas voir. C'est impressionnant parce que c'est organisé par le comité olympique
ouais,
de la Dordogne et c'est voilà, c'est là vraiment, tu vas voir le département qui remercie ouais, de mettre en avant notre Périgord parce que c'est important. Quelles sont les prochaines échéances pour Raphaël, hormis le bac, je rappelle, même si on est en vacances.
Là, pour l'instant, de programmer, on sait qu'on aura l'année prochaine les championnats d'Europe en juillet.
C'est où?
Normalement, ce sera en Hongrie.
Ça va.
Après, il doit
je vais venir, moi.
Il doit y avoir des championnats de France
ouais,
au mois de mai à peu près. Et après, tous les ans, normalement, on a d'organiser un championnat régional et des compétitions à l'étranger, en Espagne, en Italie. Après, c'est à nous de voir...
T'as trouvé le bon filon, quand même, pour voyager.
Ouais, c'est ça. Mais après, c'est des pays où on n'irait pas
ah ouais, la Mongolie,
en vacances vrai, comme ça. Donc,
ouais, ouais, c'est sûr.
On a pu aller en Turquie, en Hongrie, en Espagne. Donc, c'est la Hongrie, la Turquie, c'est pas des pays
ouais,
très connus.
Ouais. Oui, oui, enfin, si, oui, c'est des pays...
Enfin, c'est des pays connus, mais on n'y
ouais,
est pas
non,
en vacances comme ça, là-bas.
Ouais, ouais, c'est sûr, surtout en ce moment. On va arriver bientôt à la fin de l'émission. Ça passe très vite. Alors, je voulais vraiment vous remercier, madame, Joël, et Raphaël Mallet, d'être venus de si loin nous voir, d'être de suite d'avoir répondu à la sollicitation un
ouais,
soir, je m'en rappelle. Félicitations et n'oubliez pas les sponsors, les partenaires publics, privés, les particuliers. Voilà, vous voulez donner un coup de pouce à un jeune talent qui représente fièrement notre Périgord. N'hésitez pas à nous contacter parce que ils en ont besoin. Merci d'être venu,
merci
Raphaël.
À vous.
Ouais, non, c'est avec plaisir. Merci, madame. Et puis on retrouvera le podcast. Alors demain, il y a repos, hein. Voilà. Passer du moment en famille, c'est important. Le podcast sera en ligne jeudi, normalement, et puis rediffusion vendredi matin 9h30 de l'émission sur les ondes de RLP. Et on publiera bien sûr les liens pour les podcasts. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. RLP Sport, c'est fini, mais l'émission est toujours disponible en podcast sur le site de RLP. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux. RLP Sport en direct tous les mardis à 19h avec Thomas Delpero.